13h, Dessus de table avec Philippe Robichon et Manuel Mariani sur Beur FM.
Dessus de table, l'émission qui mange le morceau. Bonjour, bienvenue, bon week-end. Et en parlant de morceaux, Manuel Mariani est là. Bonjour Manu.
Oui, sacré morceau. Bonjour Philippe.
Critique gastronomique. Et en parlant de morceaux, c'est un sacré morceau que nous recevons aujourd'hui. Hein, puisque je vous laisse le présenter, Manu.
Ah oui, absolument. On reçoit une icône de la variété française, mais également quelqu'un qui cuisine. Hein, et c'est ce qui l'amène ici aujourd'hui. C'est Dave qui vient nous parler de son livre de cuisine. Cuisinez-moi. Alors, on va vous cuisiner un peu, Dave. Hein. On va en profiter.
Je suis prêt à tout.
C'est un plaisir de voir votre livre qui s'appelle Cuisinez-moi aux éditions Cherche Midi. À quel genre il appartient, votre livre? C'est quoi? C'est une bio culinaire?
Ouais, ben, il n'y a pas encore. C'est, pourquoi pas? On peut l'appeler comme ça. Oui, c'est disons que, comme j'avais déjà écrit deux autobiographies, ce qui est quand même extrêmement prétentieux.
Déjà, oui.
J'avais fait un il y a longtemps chez La Thèse, mais où je m'étais arrêté au début de mes succès, donc à l'époque de Vanina. Et puis un autre éditeur, après, a su séduire l'Hollandais qui suit en me tenant un petit chèque devant mon nez. Donc, elle m'a dit, je voudrais savoir après Vanina. Donc, ça faisait une deuxième. Et là, l'éditeur Philippe Héraclès de Cherche Midi m'a dit, je sais que vous avez déjà fait qu'est-ce qu'on pourra faire ensemble, il m'a dit. Mmh. En fait, il ne m'a pas demandé, il m'a dit, j'aimerais travailler avec vous, qu'est-ce qu'on peut faire ensemble?
Ah oui, c'était un exercice libre.
Voilà, et là, je suis cherché, je n'ai pas répondu tout de suite. Puis un jour, j'étais en train de faire la cuisine, et je me suis dit, mais pourquoi je ne ferais pas un livre de cuisine? Et je l'ai appelé, il me dit, oui, mais d'accord, mais sous un angle biographique. Et voilà, donc ma vie, mes voyages, mon arrivée en France, mes débuts aux Pays-Bas pauvres, etc. Et c'est là où c'est peut-être en effet une autobiographie culinaire, on va dire.
Oui, c'est ça, la table des matières de votre livre trace un peu le déroulement de votre vie.
Hein,
les recettes commencent en Hollande et puis viennent après jusqu'à Paris, puis quelques recettes du monde aussi.
Ouais, exactement. Comme j'ai beaucoup voyagé quand même, et c'est marrant parce que les touristes qui viennent à Paris, par exemple, ils vont acheter un petit Tour Eiffel. Moi, je me souviens, pour donner l'exemple, j'étais à l'île Maurice et puis j'ai acheté des épices. Parce que quand tu as des épices d'un pays, après que tu fais la cuisine à la maison avec, mais tu es de retour dans le pays.
Ça a le goût du pays, oui, tout à fait. Mais justement, d'ailleurs, la cuisine, c'est beaucoup de souvenirs, c'est beaucoup de saveurs, ce sont des odeurs. Ouais. Est-ce que, puisque votre livre est autobiographique, partons du début, est-ce que vous avez des souvenirs culinaires quand vous étiez enfant, une odeur, justement, une saveur, un repas de famille annuel qui était mémorable?
En fait, c'est un peu comme j'explique dans le livre, au quotidien, c'était évidemment ma mère qui faisait la cuisine, même si ma mère travaillait quand même aussi parce qu'elle était prof de danse après avoir été danseuse. Et comme mes parents avaient 4 enfants et que mon père était prof et que c'est aussi mal payé qu'en France, quoi. Donc il fallait qu'il donne des cours privés, ma mère donnait des cours de danse, donc c'est d'ailleurs comme ça que j'ai commencé à faire la cuisine pour donner un coup de main parce que j'aimais ça. Et donc au quotidien, disons que je dirais que l'odeur qui me viendrait, c'est vrai que tout est olfactif, ce sera probablement l'odeur de la purée au chou frisé.
Ah.
Mais que j'aimais pas trop, mais j'adore les saucisses fumées dedans.
D'accord. Oui.
Il n'y a aucune arrière-pensée en disant ça.
Non, bien sûr.
et puis pour Noël.
Alors, pour des raisons, c'est une émission familiale, Dave. Hein,
donc c'est pour ça que c'est resté dans le flou.
On coupera au montage.
C'est vous qui êtes vicieux.
Ah, c'est vrai. Pardon. Excusez-moi.
Pardon. Moi.
Oui, c'est nous qui l'entendons mal.
Dès qu'on parle de chou, évidemment, je me dis qu'on va.
Oui, comme les enfants sont nés dans les choux, c'est joli. Et donc, mais pour Noël, la grande occasion, c'était mon père qui avait passé 6 mois de sa vie à Montpellier, parce qu'il était une famille d'origine vendeur de cuir, et pareil qu'on fait des cuirs, des traitements de cuir du côté de Montpellier. Et là, lui, il avait pris le goût de la cuisine française, du vin français, etc. Et donc, là, ce sera plutôt pour Noël, ce sera plutôt le terrine de mon père, qui est d'ailleurs dans le livre. Et c'est lui qui faisait le pâté, quoi.
D'accord. La cuisine française est réputée aux Pays-Bas
Quand on va au restaurant aux Pays-Bas, on mange français.
D'accord.
Parce que la cuisine hollandaise, ça n'existait pas. C'est la cuisine paysanne. C'est quand des potés, des choses comme ça. C'est bon, hein.
Mais le pot le veste, je ne sais pas si je prononce bien.
C'est flamand.
C'est flamand, d'accord.
La Belgique, ça les énerve beaucoup, mais la Belgique faisait partie des Pays-Bas jusqu'en 1838.
Hein. Oui. Donc,
sans qu'on ait un peu les mêmes origines. Non, la cuisine raffinée, c'est la cuisine française, soyons honnête. Ça peut être aussi évidemment chinoise ou italien, il y a d'autres cuisines. Mmh. Mais le numéro au monde, c'est la France. Vive la France.
Alors,
moi, je ne suis même pas français. Donc.
Alors, c'est pas un livre d'une star qui, parce que là vous êtes modeste, qui dit, voilà, je vais faire un livre de cuisine. Vous êtes d'abord un très bon cuisinier. Et d'ailleurs, un de vos mentors culinaires, qui s'appelle Suzy Wise, dit de vous que vous êtes un cuisinier merveilleux.
Mais j'insiste justement pour, quand on me parle de ça, je ne suis pas un professionnel de la cuisine, mais j'ai une expérience incroyable.
Mais vous cuisinez bien.
Ça fait 50 ans que je fais la cuisine. Ouais. Donc évidemment, on finit par apprendre. Donc je suis un cuisinier expérimenté. Après, on n'aime pas ce que je fais. Mais par exemple, je fais toutes les semaines mon pain. Je suis mauvais client pour le boulanger. Je n'achète jamais du pain. J'adore faire du pain. C'est un moment de, je dirais pas, c'est de sérénité. N'importe comment, la cuisine, c'est la sérénité. Quand on fait la cuisine, on n'a pas des problèmes métaphysiques.
Mais c'est un pain au soja?
Non, au soda, c'est un problème.
Ah, au soda,
soda c'est oui, quoi le soda? Soda bread. Soda, c'est le bicarbonate de soude.
Ah, d'accord.
Voilà, tout simplement.
Mais ça aide à monter, ça permet à la pâte
c'est-à-dire
de bien
monter.
C'est-à-dire
que là, puisque on est dans une émission culinaire, c'est très... Messieurs, dames, 500 grammes de farine, un demi-litre de lait fermenté qu'on trouve grâce aux Maghrébins partout, parce qu'avant, on ne le trouvait pas. Lait fermenté, et donc un cuillère de carbonate de soude, un cuillère de sel, un demi-litre de lait fermenté, et 500 grammes de farine. Et alors, si je vous dis ça, parce que j'ai eu un coup de fil de Laurence Boccoloni, parce qu'il y a une erreur dans le livre, il y a un coquille monceux, il y a marqué 40 centilitres, il y a marqué 400 centilitres, elle m'a appelé à minuit, elle m'a dit, mais j'ai fait une pâte à crêpes.
Ça fait une pâte à crêpes, oui.
Dans mon intérieur, je dis, mais les connes, quoi, enfin, on ne peut pas mettre 400 centilitres.
Bah, ce qui est bien, ce qui prouve qu'elle teste les recettes.
Exactement.
Ça, c'est génial.
Mais c'est une bosseuse, Boccoloni.
Elle a pas dit du mal de mon livre, malgré tout. Elle était très gentille. Ouais. Elle est gentille.
Et vous faites votre pain deux fois par semaine, en fait?
Ouais, parce que, évidemment, mais je dirais presque que ce pain-là, que j'adore, elle est très bonne aussi grillée. C'est un peu comme le poilane, mais personnellement, je ne l'aime pas beaucoup, ce poilane, parce que c'est vraiment au levain. C'est pas
c'est le levain. Très acide.
Et très acide, donc moi, je l'aime mieux grillé.
Fermenté,
j'aime bien grillé.
Oui, d'ailleurs, le fait de mettre du bicarbonate de soude dans la pâte à pain, ça permet d'avoir une croûte bien croustillante et très craquante.
Exactement.
Et vous dites que vous aimez la cérémonie des tartines. Vous aimez faire des tartines.
Ça, c'est très hollandais, quand même. Oui. Vous savez, je suis toujours de nationalité néerlandaise. Ouais. Et je n'ai jamais voulu devenir français. Parce que, évidemment, je suis là depuis 50 ans. J'ai vécu beaucoup plus en France qu'aux Pays-Bas. Et je suis sûrement francisé. Mais j'ai toujours dit que les premiers 20 ans dans une vie sont tellement importants que mes origines culturelles, si on peut appeler ça comme ça, sont néerlandais et pas français, quoi. Même si je suis francisé. Mais les Hollandais, ils mangent des tartines. Et donc, je mange toujours ça.
Alors justement, d'où ça vient cette manie? Il y a la même chose chez les Allemands. Oui. Cette manie de tout mettre sur des tartines, de tout tartiner en Hollande, c'est dans l'ADN?
Oui, je pense. C'est-à-dire que, on va dire que les Orientaux, c'est le riz, les Hollandais, c'est les tartines et les pommes de terre. Et le Français, ben, c'est tout. Parce que le Français, il mange tout.
Mais vous mettez quoi sur les tartines?
Alors, je mets, par exemple, du pindakaas, du beurre de cacahuète. Je peux mettre une terrine. Parce que ça s'écrase bien. Je peux mettre des œufs sur le plat, etc. Je trempe un peu de temps, etc. Mais
des steaks, vous mettez sur les tartines?
Biefstuk au brood, en bon hollandais, oui. Oui, c'est des steaks. Des steaks bien saignants, avec des bons jus du beurre hollandais, qui est le meilleur beurre du monde. Je suis désolé pour les Danois. C'est les nôtres.
D'accord, oui. Alors d'ailleurs, on mange les steaks sur des tartines, mais c'est bien, ça permet de récupérer le jus.
Ah oui, oui, on trempe.
Et après, le pain est délicieux.
Mais sinon, moi, j'adore la cuisine française. La seule habitude française que je n'ai pas prise, et je ne sais pas si ça se fait toujours, vous allez me le dire, puisque vous êtes très âgé.
Et là, vous regardez Manu, et vous avez bien raison, Dave.
Franchement, c'est super blond.
Oui, exactement.
C'est le mettre le tremper le pain là, dans le café au lait le matin. Ça se fait toujours, vous voyez?
Ah, ben, bien sûr, oui.
Ah, ça se fait toujours. Ouais, ouais. Ça, j'arrive pas, moi, avec les trucs qui flottent dans le...
Avec du fromage, même, dans le
nord. Oui, avec du camembert, c'est délicieux. Oui.
Alors, on parlait de votre maman tout à l'heure, hein, que vous évoquez dans tout le livre, mais notamment dans Mes débuts aux Pays-Bas, hein, le chapitre Mes débuts aux Pays-Bas. On dit qu'il y a toujours une mère ou une grand-mère derrière une vocation culinaire. Est-ce que votre maman était bonne cuisinière? Parce que vous parliez du goût pour la cuisine de votre père, mais est-ce que votre maman était bonne cuisinière? Est-ce qu'elle cuisinait beaucoup?
C'est marrant, parce que il y a sûrement des auditrices qui vont comprendre, même si moi, en étant un homme, je ne comprends pas trop. Elle faisait très bien la cuisine, jusqu'à ce qu'elle s'est rendue compte que mon père la trompait, et ils ont divorcé parce que ma mère n'a pas accepté. Et après, elle ne faisait plus bien la cuisine.
Ah.
Donc, il faut croire qu'on fait bien la cuisine pour la personne qu'on aime. Ce qui n'était pas drôle pour nous autres, les enfants, parce que j'espère que nous aimons beaucoup aussi.
On ne se sentait plus aimé, du coup.
Mais même moi, je le disais, ma maman, enfin, qu'est-ce qui se passe? Elle me dit, ouais, je ne sais pas, je suis moins motivée. C'est dingue. Mais elle faisait très bien la cuisine avant. Mais ma papa, vous savez, il y a une chanson de la chanteuse Dani. Papa a épousé la bonne.
Ah, quelle idée, mère, il a eu là, mon
exactement.
Petit papa.
Et bien mon père a fait ça, il a épousé la bonne.
Ouais.
Mais c'était pas juste une histoire, j'allais dire de cul, mais c'était une lettre. Hein. C'était plus que ça parce qu'il a vraiment épousé.
Ouais.
On est à quelle heure là? Je ne me suis plus l'heure.
On est toujours familial. Mais vous vivez avec un végétarien, ça change quoi finalement de cuisiner pour un végétarien?
Mais j'ai découvert qu'on peut faire des choses formidables. Honnêtement, il y a un article il y a quelques temps dans l'IB où on parle de l'aubergine. Mais l'aubergine, c'est vrai que c'est assez, comment dirais-je, charnu. Ça peut remplacer l'idée de ce qu'on a dans la viande, une aubergine grillée comme ça. Mais moi, j'adore ce que j'appelle la plante à ratatouille, sur laquelle pousserait une tomate, une aubergine, une courgette, un ail et un oignon. C'est sympathique.
Mais c'est inventé. Il faut déposer le brevet, Dave.
Non, moi, j'adore. Je serais très content d'une recette sur laquelle il y a une. La ratatouille italienne, qui est la caponata, dans laquelle il y a des capres. Quoi.
Dont vous donnez la recette, effectivement, dans le livre, dans la rubrique italienne. Il y a une rubrique italienne.
Ouais, j'adore l'Italie. J'aime tellement l'Italie que je préférais habiter en France parce que sinon on sera peut-être déçu, vous savez. Quand il y a une très belle femme, il ne faut pas l'épouser, après on est déçu.
Alors l'Italie, pourquoi? C'est les Italiens, c'est la cuisine, c'est le climat.
Les Italiens, on dit que les Français sont des Italiens qui font la gueule. J'aime bien ça.
C'est pas faux.
Donc les Italiens sont des Français qui sourient. Donc voilà. Les Italiens ne se prennent pas au sérieux. Un Italien un jour m'a dit, même sous Mussolini, on faisait les uniformes en papier parce qu'on savait bien que ça n'allait pas durer. Ça me plaît beaucoup, cette idée.
Et puis vous aimez beaucoup le théâtre, il y a un côté théâtral aussi chez les Italiens, même dans la cuisine d'ailleurs.
Ouais.
Puis, qui doit vous
justement,
plaire.
Justement, pour les végétariens, quand vous allez dans un restaurant italien, vous trouvez plus de choses. Ne serait-ce que l'antipasti, les hors d'œuvre italiens, il y a beaucoup de légumes souvent. Donc, entre les pâtes et les légumes, on est plus facilement servi dans un restaurant italien. Moi, je me souviens, un jour, on était en Auvergne, je crois qu'à Aurillac, et j'ai dit que mon copain était végétarien. Et la fille a dit, ah ben, on peut lui faire des charcuteries. Donc,
elle avait bien compris. Ouais. qu'est-ce que vous aimez cuisiner de la cuisine italienne?
Écoutez, des pâtes à l'ail, moi, alors là, il y a une recette de pâtes à l'ail, pas une gousse d'ail, pas personne, une tête d'ail, pas personne. Évidemment, après, il faut plutôt dormir seul, mais, et même pendant 24 heures, on empêche, c'est un peu
avec une bonne huile d'olive.
Non, c'est très, très, très...
Et alors, en Calabre, sur les pâtes à l'ail, après, ils font griller du pain rassis qu'ils râpent dessus, et ça donne un peu de croustillant.
Ah, vous connaissez cette recette. J'ai bien fait de venir.
Ah bah.
Et puis, un ossobuco bien réussi, ça fait mal. N'oubliez pas, quand vous mettez de céleri, quand vous mettez fait un ossobuco, c'est important là-dedans. Et puis, le polo al diablo, c'est-à-dire une poulette tout simplement coupée en deux. Bien forcé dessus, mettez 15 poils de cuivre dessus pour que ça soit bien écrasé. Il faut le faire griller comme ça, on mange cette doigt.
Oui, qui est ouvert par le dos, c'est ça.
Exactement.
Et cuit à plat, avec une sauce un peu relevée. C'est très bon le poulet à la diable, Philippe.
Ouais.
Waouh. Pas mal. Et la cuisine maghrébine, est-ce que vous la connaissez?
Alors moi, la première fois que je suis allé en Afrique du Nord, c'était en 1967, j'avais donc 22-23 ans, et c'était la Tunisie. Et donc j'ai découvert la cuisine, le couscous, je l'ai découvert en Tunisie, et c'est peut-être parce que c'était la première fois, je dois dire que c'est encore aujourd'hui le couscous que je préfère.
Le couscous tunisien.
Oui, c'est vrai que le couscous marocain est souvent plus inventif, mais il mélange le sucré, etc. Et comme je ne suis pas très sucré, moi, j'ai l'harissa fait maison par des copains tunisois. C'est rien à voir avec les tubes d'harissa. Hein.
Alors vous savez qu'il y a une AOC.
L'harissa, c'est à tomber par terre.
Il y a une AOC sur l'harissa tunisienne depuis peu. Hein. Il y a 6 harissas qui ont été labellisées par le gouvernement tunisien.
Ah oui, ça, je ne savais pas. Ouais. Mais cela dit, j'ai des souvenirs. Moi, j'ai chanté aussi bien, un peu moins aujourd'hui maintenant, mais hélas. Mais j'ai chanté en Algérie, j'ai chanté même en Kabylie, j'ai chanté en Tunisie, beaucoup en Tunisie. J'ai chanté au Maroc aussi. J'étais invité par la fille du président roi. Lala Amina.
Lala Amina, absolument.
C'était une petite grosse qui avait une histoire d'amour avec un palefrenier.
Oui, qui a un très beau cheval, qui avait un très beau pur sang qui s'appelait Candilejas.
Ah ben, attendez, on parle trop, c'est ça? Je vois des gestes derrière le son.
Non, on parle trop parce que c'est la pub. Pause. Voilà, exactement. Cuisinez-moi, c'est le livre des recettes de Dave qui est notre invité aux éditions du Cherche Midi.
Dessus de table, reviens dans un instant. Midi 13h, dessus de table avec Philippe Robichon et Manuel Mariani sur Beurre FM.
Manu qui est toujours à la recherche d'adresses à vous conseiller. S'il y a une adresse où on mange bien à Paris, c'est chez Dave. D'ailleurs, oui. C'est pas moi qui le dis, c'est vous qui le dites, Dave. S'il y avait une adresse où on mange bien,
oui, mais
c'est chez moi.
Je donne mon adresse en même temps.
On vous donnera le numéro de portable de Dave après, voilà, si vous voulez réserver.
Si on vous donnera l'adresse tout à l'heure sur le site de Beurre FM. Cuisinez-moi, le livre des recettes de Dave vient de sortir aux éditions du Cherche Midi. C'est un succès incroyable d'ailleurs, ouais, pour un livre de cuisine. Ouais, vous voyez, les gens ont répondu présent.
C'est-à-dire que c'est pas compliqué. C'est, parce que moi-même, quand on me donne, les gens savent que j'aime la cuisine, on me donne des livres de cuisine des grands cuisiniers, devant lesquels je m'incline totalement, évidemment, mais je comprends pas toujours bien, quoi. Là, c'est très simple. C'est comme je l'ai fait, moi, quoi.
Oui, vous expliquez une recette comme vous parleriez à un ami, voilà, en disant tu fais ça, etc. Alors, juste avant la pause, vous nous disiez que votre couscous préféré, c'était le couscous tunisien. Le couscous la cuisine tunisienne en général, elle a été pas mal influencée par l'Italie et aussi par sa cuisine. Parce que d'ailleurs, on dit du couscous tunisien que c'est le couscous avec le bouillon rouge, parce qu'il y a beaucoup de tomates dedans et du concentré de tomates, donc on peut faire un peu le pont entre votre goût pour la cuisine italienne et votre goût pour le couscous tunisien.
En Tunisie, j'ai fait la Manche à l'époque, j'avais pas un rond, je suis avec le bateau, le Kerouan, j'étais vraiment dans les cales avec les, j'avais pas un rond, quoi. On mangeait c'était mes premiers casse-croûtes tunisiens, c'était vachement bon avec des merguez bien qui me portaient bien la gueule, c'était très 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 bon souvenir. Non, c'est vrai que j'ai des souvenirs parce que c'était en 67, donc j'ai pris le train de Tunis, c'est pas culinaire, mais de Tunis à Gabès, qui est même assez long, et le premier mot arabe que j'ai entendu, c'était Mra Esbia, ça veut dire femme jeune fille, parce que j'avais les cheveux jusqu'à là.
Oui.
mais avec beaucoup de gentillesse. Ils étaient morts de rire, mais ils n'étaient pas méchants du tout, hein. C'était très sympa. Ouais.
Oui, d'ailleurs, alors vous parlez de bateau, vous avez vécu vous avez fait des canots sur une péniche.
Un bateau de pêche, oui. Je suis arrivé d'Amsterdam à Marseille par la voie fluviale, parce que je suis parti en automne, et je ne connaissais rien à la mer. C'était un bateau de mer, hein, c'était un bateau de pêche pour la mer, à fond plat, ce qui nous a permis donc de faire des canots. Et donc on est parti par la voie fluviale, et je suis quelque part resté coincé en France, quoi.
Ouais. Et alors dans ce chapitre justement qui est intitulé « Sur les canots », vous faites référence donc à cette période où vous voyagez sur les voies fluviales en faisant la manche devant les cafés pour avoir de quoi aller faire le marché.
Des pommes de terre.
Il y a que trois recettes. Ça veut dire que c'est galère de faire la cuisine sur une
galère
péniche.
Quand on n'a pas d'argent.
Sur ça, d'accord. C'est plus monde, financier donc. Que pratique.
Oui, c'est là où j'ai appris de cuisiner des céleri raves. Couper en tranches d'un centimètre et faire cuire tout doucement un peu d'huile d'olive avec quelques herbes dessus, c'est très bon.
Oui, d'ailleurs, vous expliquez que vous mangez beaucoup de patates à cette période. Hein.
Ah ben, je continue à manger. Ça, c'est hollandais. Le mangeur des pommes de terre de Van Gogh, c'est les Pays-Bas. Hein, parce
d'accord,
que les Français
là,
pensent que Van Gogh est français. Non, Van Gogh est hollandais.
Il y a un autre, parce que le bateau compte beaucoup dans votre apprentissage de la cuisine, mais il y a un de vos autres mentors culinaires, il s'appelle Roger Thomas. Lui aussi, il avait un bateau.
Oui, il avait un tonnier. Ouais, absolument.
Un tonnier.
Ouais, il avait un tonnier.
Et lui aussi, vous dites qu'il cuisinait formidablement bien, ce gars.
Ah oui, oui. C'est
qui vous envoyait faire les courses.
Oui, je faisais les courses parce qu'on était quand même 14 sur ce bateau. Et très, très souvent, quand je rentrais, il me disait, mais qu'est-ce que t'as encore ? T'as fait les courses ? C'est des trucs de tente que t'as acheté. C'était sympa. J'ai dit, mais je t'en prie. Tu vois ce que je veux dire ? Et parce que quand on fait la cuisine, et là, vous êtes d'accord avec moi, la chose la plus importante, c'est savoir faire le marché. C'est très important. Et les grands cuisiniers, ils savent où, quoi acheter. Quoi. C'est les produits avant tout qui comptent. Après, il faut le savoir les faire cuire, mais c'est quand même, à la base, c'est les produits. Quoi.
C'est les produits. Alors justement, c'est très intéressant parce que vous devancez une de mes questions. Parce que quand vous êtes effectivement à la période de la péniche, vous dites que bon, avec les quelques florins que vous avez glanés en chantant sur les terrasses de café, vous allez faire le marché, donc vous faites attention au prix, j'imagine. Et à l'époque, les produits frais qui venaient de la ferme, des champs, ne coûtaient pas très cher. Qu'est-ce que vous pensez des prix exorbitant des produits frais aujourd'hui, les fruits, les légumes.
Alors, j'ai un peu honte de vous l'avouer, mais c'est vrai que pour moi, quand on me demande qu'est-ce que ça veut dire d'être... Je ne me considère pas comme riche, parce que là où j'habite, il y a des gens bien plus riches que moi, mais j'ai quand même une certaine aisance financière, après avoir travaillé quand même depuis 50 ans. Et alors, l'aisance financière, qu'est-ce que ça veut dire en gros? Moi, j'ai dit, quand vous allez au restaurant, vous ne regardez pas combien ça coûte, vous regardez ce que vous avez envie de manger. Ça, ça veut dire que vous avez de l'argent. Et c'est un confort exceptionnel. Et pareil pour les courses, je ne suis pas très conscient des prix des choses. Évidemment, si j'achète du riz de veau ou le foie de veau, je sais bien que c'est 60 euros le kilo et que c'est probablement la denrée le plus cher qu'il y a. Mais c'est parce que c'est un extrême. Sinon, je ne connais pas les prix. Et quand parfois on veut piéger des députés, des gens...
Oui, on leur demande
le prix de la ticket de métro ou d'un croissant.
Parce qu'ils ne savent pas. Parce qu'ils savent pas. Et c'est là qu'on est un peu, en effet, trop privilégié pour se rendre compte. Je sais ce que c'est de ne pas avoir d'argent. Je sais ce que c'est de ne pas avoir, pouvoir acheter des chaussures et de mettre un journal sous le pull, parce que j'ai vécu ça, mais aujourd'hui ça va, je peux acheter des chaussures et des pulls.
Mais je suis désolé,
je m'en excuse.
Mais vous êtes passé d'un moment où vous avez cuisiné avec pas d'argent, et aujourd'hui vous pouvez cuisiner et vous raconter que vous allez faire vos courses au bon marché. Qu'est-ce que ça change finalement dans la façon qu'on a de faire la cuisine?
Rien. C'est juste comme je disais. On va dire des boulettes de viande, on peut le faire avec des steaks dans l'araignée.
Oui, un reste de couscous ou de pot-au-feu.
Voilà, exactement. Donc, c'est-à-dire, on peut acheter des produits peut-être meilleurs, mais vous savez, moi, j'avoue que j'adore le caviar. J'en mange qu'une fois par an parce que je suis vraiment horrifié par le prix. Mais j'adore aussi du pain frotté à l'ail. Et ça goûte pas grand-chose. Et puis, c'est très bon avec un petit peu d'anchois et grillé avec un peu d'ail dessus. Donc, ce n'est pas qu'une question d'argent, c'est une question de savoir-faire aussi. Mais si vous pouvez acheter de meilleure qualité, ben tant mieux pour vous, quoi.
Oui, parce que vous parlez de votre aisance financière, mais votre livre, malgré l'aisance financière qui est la vôtre aujourd'hui, c'est quand même de la cuisine de tous les jours. C'est de la cuisine simple, c'est accessible, c'est pas des plats chers.
Non. On n'est pas obligé de faire des riz de veau, mais je dirais, c'est drôle d'ailleurs, ça me fait penser, j'ai fait une émission de télé où il y avait Michel Drucker comme invité, et comme sa femme est très branchée, évidemment, elle est carrément végane.
J'imagine qu'elle ne mange pas beaucoup de viande, Dany Saval.
Non, Drucker non plus, parce qu'il il a dit à sa femme en direct à la télé, Dave me fait manger du riz de veau, mais je ne mangerai que le riz, pas le veau. Je trouve jamais...
Ça, c'est drôle.
Ça, c'est excellent.
Vous racontez dans votre livre, pour les nostalgiques de ces années-là, la fois où vous découvrez le caviar à l'Élysée Matignon dans une pomme de terre.
Ah ouais,
drôle, c'était une autre époque quand même, finalement.
Qu'est-ce que vous voulez. Mais c'est-à-dire que les choses de l'homme, c'est qu'on se souvient que ce qui va bien, quoi. Il y a une mémoire sélective, et tant mieux. Mais disons que moi, je connais des petits restaurants vraiment, c'est pas cher, où c'est formidable. Il y avait un petit restaurant tunisien, pas loin des buts de Chaumont, où j'allais manger. On y mangeait, aujourd'hui, pour 8 euros, on y mangeait. Maintenant, c'est vrai que si on veut manger bien à Paris, on frôle souvent les 100 euros par personne, surtout si on boit du vin. Parce que moi, si j'ai dit que je ne regarde pas les prix, pour le vin, j'ai intérêt de garder les prix.
Sinon,
tu as des mauvaises surprises.
Ça coûte cher, sinon.
Il y a des vins à 1000 euros.
On a l'exemple du ministre, d'ailleurs, qui pensait que le moindre repas dans un restaurant coûtait 200 euros. Montre la déconnexion entre les politiques
et la
réalité des prix.
Moi, je ne pense pas être trop déconnecté, honnêtement.
Ouais. Alors, d'ailleurs, vous parliez de restaurants. Alors, quels sont vos restaurants préférés à Paris ou dans le sud où vous êtes une partie d'année?
Comme vous avez dit, je vis avec un végétarien. On va souvent manger italien parce que là, honnêtement, il trouve toujours son bonheur. Et moi aussi, parce que j'adore la cuisine italienne. Mais, et puis, je ne passe pas ma vie dans les trois étoiles. Les guides Michelin, c'est vrai qu'il y en a quelques-uns.
Mais vous tournez beaucoup en France, finalement. Parce que je ne sais pas combien vous faites encore de galas aujourd'hui, mais la France, vous l'avez faite dans tous les sens.
Ah oui, je connais mieux le gala que la France que la plupart des VAP.
Donc, ce qui veut dire qu'à un moment donné, quand vous tournez en tournée, on mange et on s'arrête dans les petits endroits. Est-ce que vous avez peut-être des adresses en France que vous avez sous le manteau, sous le coude?
Je ne vous le donnerai pas maintenant, je dis ça parce que je ne me souviens pas trop. Mais... non, mais c'est vrai qu'il y a un restaurant de poissons à Marseille sur les corniches qui est vraiment tombé par terre. Démerdez-vous.
Non, mais je crois savoir celui dont vous parlez. On en avait parlé dans l'émission sur le fish and chips.
Ah oui. Non, mais c'est vrai qu'à Paris, disons, il y a, vous imaginez qu'il y a un routier dans le 16e arrondissement.
Absolument, qui est un très bon restaurant d'ailleurs.
C'est formidable.
Il n'y a que deux routiers à Paris d'ailleurs. Dans Paris Intramuros, il n'y a que deux routiers.
Il y en a un autre.
Qui sont deux restaurants où on mange très bien pour pas très cher.
Bon, balancez Manu. Alors routier
j'ai plus
du 16e.
En tête non plus.
Ah ouais, attendez là.
Il y en a un vraiment sur les quais Kennedy, sur une rue à droite.
C'est ça, tout à fait, dans une rue perpendiculaire.
Voilà. Très loin de la maison de la radio.
Vraiment avec les nappes rouges et blancs, comme quand on fait. Les restaurants français à Los Angeles ont tous des nappes rouges et blancs pour faire français.
Mais c'est un prix. c'est un prix routier ou c'est un prix 16e?
Oui, oui, non, c'est un prix routier.
C'est un prix routier, avec des œufs mimosa encore.
Voilà, des andouillettes, des œufs de mayonnaise, des andouillettes mayo.
Encore avec une cuisine de routier. Et le deuxième, il est où, Manu?
Alors, il y en a un qui est effectivement dans le 16e. Je suis en train de vous retrouver les noms. Alors, il s'appelle Les Marches. Voilà, Les Marches. Et c'est 5 rues de la Manutention dans le 16e. Alors, ça ne s'invente pas, c'est rue de la Manutention. Hein. Et puis, il y en a un autre qui s'appelle Chez Léon. Et Chez Léon, c'est rue de l'Isly dans le 8e. Alors, encore un beau quartier. Hein.
Oui, c'est
par contre, bon, ouais. Chez Léon, c'est un peu plus dans son jus. Hein.
Ouais. Ça ressemble plus à un routier, c'est ce que vous voulez dire.
Tout à fait, tout à fait.
Et Les Marches, c'est une brasserie.
Mais on en parle d'ailleurs dans le magazine Grand Seigneur, hein, ouais. Dans un article sur les bistrots, faut-il conserver les bistrots de vieux? Voilà.
Ah oui.
vous aimez cuisiner, vous aimez manger. Comment est-ce que vous faites attention à vous?
Mais comme on parlait, je fais beaucoup de spectacles, pour vous que ça dure, sauf que maintenant, c'est marrant parce qu'avant, quand je chantais de ce qu'on appelle à l'époque les trois hommages, qu'on appelle les seniors aujourd'hui, je trouve les gens très vieux et aujourd'hui, je ne les vois pas si vieux que ça. Parce que comme moi, j'ai le même âge qu'eux maintenant.
Votre public, malgré tout, malgré tout, avec le fait d'avoir été jury dans l'émission Incroyable Talent, ça vous a quand même popularisé auprès d'un public beaucoup plus jeune.
Oui, c'est vrai. Ben, c'est drôle parce qu'à l'époque, quand j'étais 80, quand j'étais quand même ce qu'on appelle un peu joliment le traversé du désert, dans lequel il y a plein d'autres chanteurs.
Donc vous parlez dans votre livre aussi, d'ailleurs.
On n'est pas si seul que ça. Mais c'est vrai que c'était parfois des mamans ou même des grands-parents qui tiraient leurs enfants vers moi pour dire... Le môme ne savait pas qui j'étais. C'est-à-dire qu'avec Incroyable Talent, c'était de nouveau les mômes qui tiraient leur mère et leur grand-mère en disant « Oh, c'est le mec du Incroyable Talent ». Je ne savais plus très bien que ce que j'ai chanté, évidemment. Mais c'est toujours dur pour un chanteur de se rendre compte qu'on est devenu tineur aussi chez l'entraîneur. Hein. On ne se rend pas trop compte. On est toujours le dernier à être au courant. C'est comme quand on est cocu.
Non, vous l'avez toujours su et vous l'avez toujours dit. Et vous êtes le premier à l'avoir dit clairement.
Eh bien, c'est vrai que j'ai une certaine lucidité qui est parfois un peu fatigante.
Oui, et vous le disiez donc. Mais est-ce que finalement, le succès, enfin la notoriété, ça n'a rien à voir avec le succès? Vous pouvez être très, très, très connu et avoir une traversée du désert, parce que vous avez toujours été connu.
Oui, j'ai toujours été connu, mais moi, ça me fait toujours penser à Jeanne Moreau qui racontait quand elle était invitée dans des grands festivals et autres, où étaient les stars, elle avait droit à la suite présidentielle et de repas de rois. Quand elle arrive à Orly, au Roissy, elle n'avait pas d'argent pour payer le taxi. Donc, on peut ne pas travailler, voilà. Être très célèbre.
On peut être très, très connu et finalement être dans la dèche.
Oui, moi, ça va, je paye encore mon taxi. Mais c'est vrai que dans les années 80, où j'étais beaucoup moins médiatisé, évidemment, je ne pouvais plus payer mes musiciens, par exemple. Et aujourd'hui, grâce à une espèce de comeback médiatique, j'ai des musiciens. Mais à ce moment-là, on travaillait avec ce qu'on appelle
une bande d'orchestre.
Oui, parce que même pendant que vous appelez votre traversée du désert, vous n'avez jamais arrêté de chanter.
Ah non.
Mais bon, c'était peut-être des moins grandes salles. C'était peut-être une bande enregistrée au lieu des musiciens.
Oui, vous
n'avez jamais arrêté de travailler.
Non, ça c'est sûr. Et aujourd'hui, je continue parce que je ne peux pas. Si ce n'est pas au moins une fois par semaine sur scène, ça me manque, quoi. Et c'est vrai que même si j'ai fait des livres de cuisine, que j'ai fait de la télé, on m'a même proposé maintenant de faire des émissions culinaires. Je dis non.
Guy Job, il vous a pas proposé?
Ah ben il en a fait lui avec.
Non mais je sais, c'est pour ça. Mais
avec Joël.
Ouais. Mais j'ai travaillé pour Guy Job. Le premier grand série, c'était celui le copain avec Sheila. C'était avec Guy Job.
Oui, grand producteur. Ouais. Maintenant
gros producteur.
Ouais. Oui aussi, oui aussi.
Mais le Bienvenu Guy Béard, c'était Guy Job.
Hein. Ouais, ouais.
C'était
au siècle
dernier.
Vous pourriez avoir une émission.
Il faut que les gens comprennent quand même que je suis avant tout chanteur. Le quintessence de ma vie, c'est la chanson. Le nirvana, c'est d'être sur scène, d'avoir ce mélange de
Vous aimez encore ça, chanter finalement sur scène?
Ouais. Vous savez, tout à l'heure, on parlait d'Annie Cordy, qui était une copine à moi et qui a 90 ans. Moi, j'ai fait une tournée avec elle à l'époque d'âge tendre et elle avait un problème de genou. Elle boitait toute la journée et quand elle était sur scène, elle dansait la bonne du curé sans aucun problème.
Ouais, c'est
parce
incroyable.
Que pourquoi l'adrénaline, et pas que dans l'adrénaline, il y a aussi l'endorphine qui vous endort vos douleurs. Quand on est sur scène, et en plus, on nous paye. C'est pas beau, ça?
Ouais. C'est magnifique.
Mais vous avez du plaisir finalement à chanter encore aujourd'hui et vous avez encore envie de chanter?
Ah ouais, j'ai encore envie de faire l'amour, tout. Hein. Faut pas
c'est vrai. Mais alors, on parle de cuisine. Ça tombe bien, on parle de cuisine. Le mardi, on a une émission avec Nadia El Bouga. Vous pouvez venir. Le mardi, on parlera de votre
sexo.
Amour, de sexo, si vous voulez, Dave. Mais jusqu'à 13h, on parle de votre livre, s'appelle Cuisine et moi, le livre de recettes de Dave, qui est notre invité aujourd'hui.
Dessus de table, reviens dans un instant. Midi 13h, Dessus de table avec Philippe Robichon et Manuel Mariani sur Beurre FM.
À mesure que le temps passe, cuisiner est devenu une occupation assez obsessionnelle. C'est Dev qui le dit dans son livre. Dev, notre invité, Manuel Mariani. Aujourd'hui jusqu'à 13h, son livre s'appelle Cuisiner moi, le livre de vos recettes, hein, le livre des recettes de Dev aux éditions du Cherche Midi. Mais plus ça va, plus vous aimez cuisiner et plus vous passez du temps à cuisiner.
Non, je ne dirais pas ça, mais comme c'est toujours, disons que quand je suis à Paris, j'ai peut-être un peu moins de temps, parce qu'en fait, je me partage maintenant entre les Vaucluse et Paris. C'est une maison du côté de l'île sur la Sorgue. D'ailleurs, c'est drôle de parler de l'île sur la Sorgue, parce que c'était avant tout la ville de Renaud. Et d'ailleurs, c'est comme ça que c'est mon prochain album.
Qui va produire, oui, votre prochain album, Renaud.
Il l'a produit, parce que...
Ah, ça y est, oui, c'est fait.
Et oui, il est venu dans un gala que je faisais, enfin, on ne dit plus gala aujourd'hui, je suis un vieux con.
Dans un concert, un concert.
Oui, mais bon, les concerts, c'est ou rock ou classique. Donc, allez, on va dire spectacle.
Un récital, allez, ça met tout le monde d'accord.
Et donc, il a entendu une chanson que mon auteur et compagnon a écrite à l'occasion des enfants de Marc-Olivier Fogel. Et il s'appelle La fille aux deux papas. Et il a entendu, comme il est très rebelle, évidemment, le sucre Renaud rebelle, ça lui a plu, cette chanson-là. Il a dit, je vais écouter les autres chansons que tu as. Et après, il a dit, moi, j'ai produit l'album. Donc, c'est vrai que dans le monde occidental, un chanteur qui produit un autre chanteur, c'est très rare. Dans le monde oriental, je ne sais pas, mais chez nous,
Renaud et Dev, vous voyez, c'est pas évident.
C'est un peu chercher
le. C'est le grand écart, un peu.
Ouais.
Vous êtes parti l'enregistrer en Belgique?
Oui, à l'ICP, oui, qui est un peu le studio d'Europe.
L'ICP,
quoi. Ouais. Quand j'ai pas pu me payer. Donc, non, c'est formidable. Pourquoi on parle vite? Donc, je partage mon temps. Donc, quand je suis donc, du côté de l'île sur la Sorgue, je fais de la cuisine tous les jours, un peu moins à Paris, parce que comme j'ai 15 jours à Paris, je remplis avec des trucs à faire. Quoi.
Ouais. Alors, justement, vous êtes souvent en déplacement pour votre travail. Quand vous rentrez chez vous, quand vous êtes à la maison, est-ce que vous êtes plutôt casanier ou est-ce que vous mangez plutôt à la maison ou vous allez au restaurant?
Mais je me force à aller au restaurant quand même parce que mon compagnon passe sa vie à la maison et lui, de temps en temps, a envie de manger dehors. Mais c'est vrai que moi, quand je suis en concert, évidemment, je vais au restaurant. Donc, je ne suis pas en manque de restaurants, mais j'aime bien de temps en temps. Il y a des petits restaurants dans mon quartier. Il y en a un qui s'appelle Farniente, qui est vraiment où les gens du quartier ne vont sûrement pas parce que ce n'est pas assez chic pour eux. Mais moi, j'adore. Le mec, il est vachement sympa. Il a un petit vin de Pouille qui s'appelle Danse de la Contette, qui vaut. Il doit être dans les 12 euros et qui est délicieux. Donc,
c'est pas cher du tout.
Et qu'est-ce qu'on mange alors chez Farniente?
Ben, on mange des pâtes, quoi. Il amène, je sais pas, dans des espèces de casseroles directement sur la table. Il y a des pizzas blancs qui sont délicieuses. Et c'est un truc qu'on mange pour très peu d'argent. Donc moi j'aime bien ça parce que le mec il est cool, il chante tout le temps. Et moi je chante avec lui des vieilles chansons d'Adriano Celentano.
Non.
Ouais,
vous chantez quoi d'Adriano Celentano?
Oh, sei rimasta sola. La seule chanson qu'on connaît en France, lui, c'est 24 000 baci.
Ça, bah ouais.
Oui, bah oui.
L'adaptation, c'est
le... hein. Ouais.
24 000 baisers.
Oui, bah vous parlez italien. Vous
non, bah non, je connais l'adaptation.
Il est très largement polyglotte, Philippe, oui.
Alors, je parle indonésien parce que dans votre livre, figurez-vous, alors moi là franchement, j'ai regardé nos recettes de nasi goreng.
Nasi goreng, ouais.
Le riz frit indonésien, ouais. Visité par Dev, hein, parce que c'est pas vraiment la recette
du
nasi goreng.
Mais quand on est étudiant, moi j'étais inscrit, j'ai dit bien inscrit à la fac des droits parce que je n'y suis pas allé souvent, parce que si je chantais déjà, je me couche à 4 le matin, je n'arrivais pas à me lever pour aller à la fac.
Mais, la fac de droit, vous n'y alliez pas droit, quoi.
Ben, ouais. Exactement. Mais les étudiants à Amsterdam, en tout cas, ils mangent beaucoup, beaucoup la cuisine indonésienne parce que c'est moins cher.
Oui, le riz staffel.
Alors, riz staffel, oui, c'est vrai. Mais
il y a une forte communauté indonésienne.
Oui,
la Hollande a colonisé l'Indonésie.
Arkianou, en fait. C'est une île en Indonésie qui a pris, malencontreusement pour eux, ils n'ont pas pris le parti des occupants, qui étaient les Hollandais quand même. Mmh. Parce que la Hollande, quand même, sa richesse vient de l'Indonésie. Hein, on n'est pas fiers.
Ils ont pu, oui, il faut le dire.
Ouais. Ouais, faut le dire. Mais c'est vrai que goreng, ça veut dire frit. En Bahasa Indonésia, qui est la langue de là-bas.
Et quoi. Nasi riz, donc c'est riz frit.
Ouais. Ouais. Il y a bami goreng aussi, qui c'est les pâtes.
Avec les nouilles, oui.
C'est les nouilles.
Ouais. Ouais.
Et c'est très, très, très bon. Alors moi, justement, hier soir, je reçois un vieux copain à moi ce soir, et j'ai fait du risotto au cèpe. Mais alors, après l'avoir fait, je l'ai fait exprès hier. Aujourd'hui, je l'ai fait longuement revenir pour que ça devienne carrément un peu croquant, quoi. C'est
ouais.
Délicieux.
Parce que le principe, trouver... voilà, c'est que la deuxième cuisson du riz pour le goreng, en fait.
Exactement. C'est délicieux. Donc, j'ai fait la cuisine tout le temps. L'autre jour, j'ai fait des croquettes qui sont dans le livre aussi, la croquette de volaille. Vous avez le reste de volaille et vous mettez ça dans un béchamel. un peu de chapelure autour et vous le faites frire, c'est délicieux.
Oui, d'ailleurs, il y a beaucoup de choses râpées, hachées, croquettes, boulettes, croquettes de pommes de terre aussi, les rostis.
Ça c'est suisse, hein, le rostis, ouais. C'est délicieux ça. Délicieux. D'ailleurs, tiens, j'ai fait une émission avec Farida qui est une formidable, vous connaissez cette fille
qui fait
sur le quotidien.
Tout à fait, oui, sur tous les matins sur la quotidienne.
Fille exceptionnelle. Ancien conseiller juridique de Nina Ricci qui fait la cuisine parce qu'elle aime ça. Quoi. Elle est formidable.
Et qui cuisine bien.
Elle a fait un très très beau livre. D'ailleurs, dans l'émission, j'ai fait de la pub pour son livre comme elle a fait la pub pour le mien.
Il faut y aller.
Alors, vous parlez de Farida, c'est le cas de ses recettes, mais c'est le cas de votre livre aussi. On s'aperçoit d'une chose, c'est que quand les livres de cuisine sont faits par des gens qui ne sont pas chefs, les recettes sont très accessibles. Moi, ce que je reproche souvent aux livres de chefs, c'est que c'est trop technique, il y a des termes techniques.
Exactement, pour eux, voilà. Ça semble clair, mais pas pour nous autres.
Absolument, oui.
Vous l'avez déjà invité, Farida?
Non, mais
ça peut
être une idée.
Plus
ça peut être
nom,
une
elle
idée,
doit être un petit peu beurre. Hein.
Il y a des chances.
Bien. Vous parlez d'un de vos livres de chevet, quand vous avez commencé la cuisine, c'était celui de Ginette Mathiot, La cuisine pour tous.
6 millions de livres l'ont vendu.
Ouais, et c'est ça. Et en fait, c'est souvent ces premiers livres que les gens avaient avant Internet pour faire la cuisine.
Exactement. Un livre de poche, ça arrive en poche. Vous voyez mon livre de cuisine de Dell, elle est tachée de partout parce que
c'est... Et vous l'avez toujours.
Et les petites taches de sauce dessus.
Ah oui, taches de sauce partout. Ah non, mais c'est un truc à voir, quoi. Ouais. Dans ce livre-là, il y a une page qui m'émeut moi-même parce que c'était une page, une photo d'une recette de ma mère.
Ah oui, d'accord.
Qui est tachée aussi, oui. Ben oui, parce qu'on a les mains dans les pâtes, dans tout, quoi.
Oui, alors la transmission, justement, des recettes, votre maman tenait un carnet comme ça de recettes que vous avez récupéré plus tard
Oui, elle me l'a donné, oui, absolument. Donc, c'est ça aussi la cuisine. La cuisine, c'est aussi des souvenirs olfactifs, des souvenirs d'odeur. C'est vrai que dans le cahier, mon père avait un cahier avec les vins. Comme il avait vécu en France, parce qu'à l'époque, on ne buvait pas du vin aux Pays-Bas, on buvait de la bière et du genièvre, qui est une espèce de boisson assez fort. Et mon père avait un cahier, et donc on était quatre enfants. J'avais deux frères et une sœur, j'ai encore mes frères, j'ai plus ma sœur. Et puis il disait à moi, qui ne m'appelle pas encore Dave, il disait Walter, ce qui est Gauthier en français, Walter en allemand. Il disait, va me chercher le K12 ou le M3.
Il avait étiqueté c'était comme une bibliothèque, quoi, c'était une vinothèque.
Et il m'a appris de boire le Bordeaux avec tel plat, le Bourgogne tel plat, etc., des Wurtstraminaires, enfin, ça date de loin.
Une éducation. Mais comment ils vous appellent les gens dans la vie,
Dave?
C'est vrai les gens que vous rencontrez aujourd'hui, il n'y en a aucun qui vous appelle par votre vrai prénom.
Il n'en a plus beaucoup.
Dire que vous êtes devenu Dave, en fait.
Oui, mais ça fait drôle, parce qu'un jour, j'étais voir Elton John à Paris, il y avait des gens, des fans qui criaient Reginald, il a arrêté de chanter, il a dit, pas pour vous.
Ouais. Est-ce que c'est son vrai prénom?
Et moi, ça m'arrive quand il y a des gens qui crient Voltaire, et je dis non, pas pour vous, en pensant à être je suis Dave.
Vous avez une belle expression dans votre livre, vous dites bien cuisiner, ça réclame du bouche à oreille.
Et oui, c'est vrai, parce que il faut écouter pour apprendre. Et donc, moi, quand vous parlez de Susie Weiss, qui est une Suisse allemande, mais qui aujourd'hui...
Susie la cochonne.
Ça, c'est François Hardy qui l'a baptisée.
Ah d'accord, mais François Hardy peut avoir la dent dure parfois.
Ça, c'est sûr. Et donc, Susie m'a vraiment beaucoup fait progresser aussi. Oui. Il faut écouter les autres. Et puis, il y a aussi des recettes dans le livre. Il y a par exemple des courgettes pour Paolo, parce qu'il est mort entre-temps, ce garçon qui n'était pas vieux, mais qui est une maladie rare. Et donc, quand je fais ça, je pense à lui aussi. Vous savez, il y a des choses comme ça. J'ai donc, on parle de riz de veau. J'ai un pote suisse qui s'appelle Hervé, qui a le magasin de bijouterie. Enfin, je crois qu'il arrête. Et je sais qu'il aime les riz de veau. Donc, quand il vient, s'il fait des riz de veau, je fais une petite salade bien vinaigrée et des riz de veau dessus.
Alors, vous parlez de cette recette pour Paolo qui est mort. C'est-à-dire que quand vous pleurez en cuisinant, ce n'est pas forcément à cause des oignons, alors.
Ça peut être les deux.
D'accord. Alors, on parlait des livres de chefs de cuisine par opposition aux livres des non professionnels, mais vous êtes quand même amis avec quelques grands chefs. Est-ce qu'ils vous ont donné des conseils pour votre livre ou est-ce qu'ils vous donnent des conseils pour la cuisine de tous les jours? Est-ce que vous parlez de bouche à oreille, donc
Oui, non, honnêtement, non. Vous savez, quand on dîne, quand on est chanteur, on dîne avec les gens, ils ont plutôt envie de connaître votre métier.
Donc, c'est ça, oui.
Comment ça marche, et alors le disque et les droits d'auteur et le machin. Et donc, j'ai rarement parlé cuisine avec les... Non, c'est vrai que Blanc, par exemple, c'est un de mes grands chefs, c'est un mec extraordinaire, quoi. Il y a des gens qui sont formidables. Il a carrément le village entier.
Le roi de la volaille.
Des poulets de Bresse.
Des poulets de Bresse,
mais vous savez, maintenant, très souvent, les grands chefs, ils ont des restaurants très chics et très, très chers. Et à côté, ils ont
un petit bistrot, oui.
Et moi, je vais dans un petit bistrot parce que j'aime ça bien. J'aime pas trop les trucs.
Oui, on mange bien pour pas trop cher.
Ouais, c'est pas une question d'argent, mais j'aime pas le côté chichiteux souvent.
Oui, mais d'ailleurs, bah, paradoxalement, c'est souvent justement ces annexes de restaurants de grands chefs qui rapportent le pognon, pour parler vulgairement.
Exactement.
Et la maison chic qui coûte de l'argent.
Exactement.
Mais qui est là pour le prestige, pour l'étiquette.
Moi, parce que ça coûte très, très. Moi, je me souviens, quand j'étais à la fac des droits, donc pour gagner un peu d'argent, j'ai travaillé dans un hôtel à Amsterdam, qui s'appelle qui est extrêmement cher et très chic. Et je me vois encore marcher avec une boîte de caviar comme ça. Je dis, putain, si ça tombe, ce n'est pas.
Il y en a pour une vie à rembourser.
J'ai fait le commis.
Et c'est peut-être pour ça que vous mangez du caviar qu'une fois par an. Vous avez eu un traumatisme depuis.
Non, mais c'est trop cher. La dernière fois, j'ai mis du caviar. Le caviar qui est donc du côté d'Arcachon.
Oui, parce qu'on fait du très bon caviar en France maintenant.
Pas mal.
Oui.
Pas mal.
La France est le deuxième producteur de caviar derrière la Russie, il faut le savoir.
Ce qu'on sait peu.
Ouais.
Alors, il y a toute votre vie dans votre livre. C'est à la maman de Daniel Auteuil, qui est un de vos compagnons de route, que vous devez de découvrir vos premiers poivrons grillés.
C'est vrai.
Par exemple.
Ouais. Daniel, on s'est connus, on était tous les deux inconnus. Moi, je faisais la manche, lui, il faisait la poursuite dans un spectacle. Il n'était même pas sur scène.
Il était, oui, la poursuite, c'est-à-dire qu'il
éclairait
la lumière,
il éclairait les stars, les
artistes.
Et donc, on s'est connus pendant les castings, comme on dit aujourd'hui, à l'époque on disait les auditions, quoi. Et puis c'est devenu une histoire d'amour, amitié, quoi. Donc c'est mon copain depuis 71. Et c'est vrai qu'on est allé chez lui à Avignon, et ses parents étaient choristes à l'opéra d'Avignon, donc ils étaient vraiment pas riches, quoi. Mais on est arrivé genre à 2h le matin, et nous avons fait des poivrons grillés avec de l'ail, et c'était tombé par terre.
Oui, c'est souvent les choses les plus simples, c'est comme vos pâtes à l'ail. C'est les choses les plus simples, souvent, qui sont les meilleures.
Exactement. Non, mais les souvenirs sont culinaires, souvent. C'est-à-dire les odeurs, parce que moi, quand on me parle de souvenirs, je parle toujours des hyacinthes, parce que l'odeur des hyacinthes, ça m'emporte, moi. Et c'est pareil.
Très hollandais, ça,
L'odeur du goudron, parce que pour moi, c'est le voyage, parce que quand on carène les bateaux, quand on est à Paris, je mets du goudron. Donc, ça veut dire voyage.
Alors, vous parlez justement de vos voyages. Dans vous avez un chapitre, donc souvenirs de croisière. Là, c'est pas quand vous chantiez sur les croisières, mais c'est vos souvenirs de voyage. Les cuisines d'ailleurs, quelles sont celles qui vous ont le plus marqué au cours de vos voyages, et quels sont vos pays préférés culinairement parlant? Là, je parle pas pour bronzer, hein, je parle vraiment
Moi, c'est comme je disais, d'une part l'Italie, et d'autre part, c'est vrai que j'adore la cuisine orientale quand même. Que ça soit, en effet, ça peut être le thaï, parce que honnêtement, le mélange de citronnelle, d'ail et de coriandre.
Ouais, un petit peu de galanga aussi.
Les galangas, c'est vraiment. Tu es ailleurs, quoi. Donc, c'est ça le voyage pour pas cher. Il y a des petits restaurants thaï à Paris où tout d'un coup, on y est, quoi. On est à Bangkok sans y aller. Et mais évidemment, la cuisine indonésienne, parce que c'est ma jeunesse, mais aussi la cuisine chinoise, sauf qu'on se fout souvent de notre gueule. J'aimerais bien parler chinois pour dire les saloperies qu'ils doivent se dire sur nous autres, les clients, parce que ça doit y aller.
Alors, je ne suis pas content, en mandarin, on dit Wuhan Pu Kao Xing.
Ah bon, d'accord.
Voilà.
Moi, je sais dire merci Kuan Ying, parce que Kuan Ying, c'est du chinois mandarin, parce que quand j'ai fait ce guide sur le bateau mouche, j'avais au moins appris à dire merci dans toutes les langues.
Vous avez fait tous les métiers, alors.
Oui, j'étais étudiant. Donc, je sais dire shukran, comme je sais dire barakallahu fik. Ah, enfin, elle se réveille.
Bien, allez, on termine par un petit conseil littéraire. Il y a 20 ans, quand vous étiez venu, vous m'aviez conseillé de lire Mathieu Gallet. Et là, maintenant, vous nous conseillez de dire... Oui, le journal. J'ai lu les deux tomes du journal de Mathieu Gallet. C'est fou, ça. Et là, vous conseillez...
On s'était connus au bois, mais c'était d'autres.
Alors, c'était pas au bois. C'était pas le même bois, figurez-vous.
Je le savais, Philippe. Je le savais.
Et voilà. Maintenant, vous conseillez de lire Frédéric Couder.
Parce qu'il m'a aidé avec la mise en page de la forme de ce livre, et donc on m'appelle un ghostwriter, parce que le mot en français est pas très joli.
Oui.
et j'ai lu.
Ghostwriter, oui.
C'est ce qu'on appelle le nègre en français.
Voilà. Oui, mais j'ai pas osé. Donc parce que on peut pas appeler ça un black, donc c'est fait.
Non. Et donc. Mais les nègres sont parfois payés au black.
Une plume.
Voilà.
Ma plume.
Une plume. Oui, c'est ça.
Comme disait l'autre, il y a des hommes politiques. Non seulement ils ont pas écrit leur livre, mais en plus ils l'ont pas lu. Ça, j'aime bien.
On a vérifié ce matin que vous l'aviez écrit et lu. On vous retrouve d'ailleurs sur Mélodie, Dave.
Ouais.
Les parents du petit écran, c'est l'émission que vous
vous l'appelez ça, les parents de la télé, et ils ont pas voulu.
Ils ont pas voulu. Andemol a pas dû vouloir, à mon avis.
C'est ça.
C'est ça.
C'est
ouais.
Un hommage, c'est un clin d'œil. Mais finalement, pour rendre le petit écran, il y a un rime intérieur, donc c'est encore mieux. Et c'est vrai que c'est assez passionnant à faire. Il y en a bientôt de nouveaux qui vont sortir. Et c'est vrai que c'est une chaîne musicale pour laquelle je bosse avec beaucoup de plaisir.
Très voilà, bonne chaîne musicale. Mélodie. Et si vous cherchez le livre de Dev, c'est au Cherche Midi que ça se passe. Ça s'appelle Cuisinez-moi. Ça vaut 24 euros pour 130 très belles pages.
Merci Dev d'avoir été avec nous, d'avoir accordé du temps à Beurre FM. À bientôt Manu, à la semaine prochaine.
À la semaine prochaine Philippe.
Retrouvez Dessus de Table tous les samedis de midi à 13h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.